Radio Grand Ciel présente B-Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Cette année, nous vous proposons une flânerie musicale à travers les courants et l'évolution du jazz. Nous avions évoqué le mois dernier les années 50, du cool jazz au free jazz. Aujourd'hui, nous aborderons les années 20, l'âge du jazz. Et pour ce faire, nous retrouvons Patrick Durand, un médecin passionné de jazz et qui joue dans plusieurs formations. Et Gilles Secaz, un journaliste et guitariste qui a été marqué très tôt par la musique d'Henri Crolla. Vous pouvez les retrouver tous deux dans plusieurs orchestres de jazz et notamment à Réveillon dans l'Orne. Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Gilles Secaz, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Donc aujourd'hui, les années 20. Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander, Gilles Secaz, pourquoi appelle-t-on cela l'âge du jazz?
Bon, on appelle ça l'âge du jazz parce que la plupart de tous les grands standards du jazz joués à travers le monde aujourd'hui nous viennent de ces années-là, nous viennent des années 20. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, jusqu'au milieu des années 30, il existe à New York un endroit qui s'appelle Tin Pan Alley, dans lequel tous les éditeurs de musique se retrouvent. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez des compositeurs, des arrangeurs, des paroliers qui font de la musique au kilomètre, de la chanson au kilomètre, pour finalement produire pour les scènes de Broadway notamment et pour la chanson populaire. Et de ce Tin Pan Alley vont naître un certain nombre de grands compositeurs.
Ah oui.
Et surtout un certain nombre de grands standards. Mais l'âge du jazz, c'est l'âge des grands standards.
Ah oui.
Il y aura d'autres grands standards, notamment au cours des années 30 et 1940. Mais la plupart de ceux que l'on connaît aujourd'hui, que l'on joue aujourd'hui, nous viennent de ces années-là et nous viennent principalement de Tin Pan Alley. D'ailleurs, on va commencer par écouter un de ces standards qui s'appelle Margie. On est en 1920. Il ne faut pas oublier que le premier enregistrement connu d'un orchestre de jazz date de 1917, la fin de la guerre. Et qu'en 1920, on a déjà un certain nombre de compagnies qui se sont montées pour enregistrer le jazz, qui est une musique qui est de plus en plus populaire. Bon, encore à naître, encore à devenir, mais populaire tout de même. Donc Margie, qui est interprétée ici par l'Original Dixieland Jazz Band, c'est une chanson qui est composée par Con Conrad et puis John Russell Robinson. Et c'est le premier enregistrement réellement populaire. Et c'est le comédien, chanteur, roi de Broadway notamment, Eddie Cantor, qui va en faire la promotion. Mais le premier enregistrement, c'est l'Original Dixieland Jazz Band que nous écoutons.
Thank you.
Oui, Marchi, 1920, l'original d'Excellent Jazz Band. L'année suivante, en 1921, l'orchestre de Clyde Durr, qui s'appelle le Club Royal Orchestra, enregistre The Sheik of Araby. The Sheik of Araby, c'est le fameux Sheik de Rudolf Valentino. En fait, c'est une espèce de clin d'œil. C'est une musique composée par Ted Snyder, et puis... c'est vraiment une réponse au succès du film Le Cheikh d'Arabie avec Rodolphe Valentino. On l'écoute. The Sheik of Araby. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, Patrick, The Sheik of Araby, en dehors du film avec Rudolph Valentino, bien sûr. Est-ce que c'est une musique que tu apprécies? Parce que là, nous sommes dans les années 20, c'est très particulier.
J'avoue que j'apprécie très modérément, sauf quand ce sont de véritables artistes qui jouent. Mais Et puis il faut remarquer, dans ce genre de musique, très souvent, ne comporte pas de piano. Alors moi qui suis pianiste, je suis un petit peu embêté. C'est vrai que les enregistrements de studio, il y a tous les instruments sont là. Mais je sais que, Gilles, toi, tu participes allègrement à ce genre de festivités où on peut jouer dans la rue. C'est d'ailleurs un petit peu comme les musiques de Nouvelle-Orléans, où tout était possible à l'extérieur, parce qu'on utilisait des instruments transportables. La batterie, c'était pas une batterie, éventuellement une grosse caisse. On utilisait les banjos, et je sais que tu joues avec des banjos.
Absolument. Oui.
Voilà. Alors, c'est une musique que j'aime bien au point de vue souvenir, mais qui ne me transporte pas parce que l'harmonie est quand même un peu réduite. Voilà.
Elle est réduite. Alors, il y a quand même une chose que moi j'aimerais faire remarquer aux auditeurs, c'est que dans ces années-là, les compositeurs ne démarrent jamais leur morceau par le refrain. Et toujours par un couplet assez long, une espèce d'introduction, que les jazzmen, par la suite, ne jouent jamais.
Oui.
Les Américains appellent ça verse.
Voilà, ce qu'on appelle le verse.
Le verse n'est jamais joué. En général, c'est entre 8 et 16 mesures. Et on oublie. Par exemple, ce que nous venons d'entendre, The Chic of Arabie, Le verse n'est jamais joué, quasiment jamais.
Mais ça me fait penser effectivement à la chanson française qui avait subi l'influence du verse.
Absolument.
Et avec les Charles Trenet, où il y avait une espèce d'introduction languissante avant d'arriver à un refrain qui était très populaire, mais le verse était complètement oublié par la suite.
Alors dans la même veine, on va écouter maintenant, nous sommes en 1922, un autre grand standard qui s'appelle China Boy, qui a été composé par Phil Bontleggi et Dick Winfrey pour un vaudeville du même nom d'ailleurs, China Boy. Il a été popularisé en 1929 par l'orchestre de Paul Whiteman avec le cornettiste Bix Beyerbeeck. Thank you. Nous étions en 1922, China Boy, l'orchestre de Paul Whiteman, le grand orchestre de Paul Whiteman, avec au cornet Bix Beiderbecke, un type assez extraordinaire et qui n'a pas très très bien vécu, pas, et même pas trop, trop longtemps. Nous en avons déjà parlé à cette antenne. Autour de Paul Whiteman, il y a eu quand même pas mal de grands noms, à commencer par le chanteur Bing Crosby, qui a fait partie de l'orchestre. Bix était souvent bien accompagné par un pianiste, compositeur, arrangeur qui s'appelait Augie Carmichael, acteur de cinéma également. Mais nous allons en reparler. Pour le moment, en 1922, toujours 1922, un autre standard qui s'appelle « I wish I could shimmy like my sister Kate » est enregistré sous différents labels par le Original Memphis Five. C'est un morceau, paraît-il, repris d'un air attribué à Louis Armstrong. Ce titre un peu long, est-ce qu'il évoque quelque chose ?
Moi, j'ai une question à poser justement à propos de ce titre. Bon, la traduction, c'est « J'aimerais bien savoir danser le shimmy comme ma sœur Kate ». Donc le shimmy, c'est quoi ? Est-ce que c'est le shimmy ? Ce sont les mêmes contorsions qu'on voyait dans les premiers dessins de Walt Disney.
C'est tout à fait ça, hein, voilà. Oui, absolument.
Et donc j'aimerais voir danser le shimmy, j'ai voilà. Jamais vu.
Les paroles d'ailleurs le disent, est-ce que ma sœur Kate va m'apprendre le shimmy et est-ce que je vais avoir l'autorisation de danser comme elle ? J'aimerais bien danser le shimmy comme ma sœur Kate. Alors, cette sœur Kate, il paraît qu'elle a une histoire. Elle s'appelait Kate Townsend. Mais il ne faut pas trop le raconter, parce que c'est une femme de mauvaise vie qui a mal fini.
C'est normal.
Donc, voilà. I wish I could shimmy like my sister Kate. Nous l'écoutons.
Thank you.
1922, I Wish I Could Chimie Like My Sister Kate. Nous avançons, nous sommes en 1923, le jazz est aussi une musique de danse.
Et
nous allons, absolument, nous allons connaître un succès extraordinaire planétaire même, avec un morceau qui s'appelle Charleston, qui est en fait le morceau qui illustre la danse bien connue du même nom. C'est composé par James P. Johnson et ça a été lancé par une dame qui s'appelait Elizabeth Welch pour la comédie musicale Running Wild. Ici, c'est là, effectivement, Christiane a raison, l'orchestre d'Arthur Gibbs qui nous joue tout ça. Christiane, je suis sûr que vous dansez le Charleston.
Ah, j'adore.
Vous adorez le Charleston. Et comment est-ce que ça se danse, le Charleston?
Pour l'expliquer, ce n'est pas si facile.
Non.
Oui, il y a des comportements un petit peu particuliers. Autant le Charleston est passé à l'histoire, autant le chimie est resté dans son coin, n'est-ce pas, Christine?
Sauf pour les gars, bien sûr.
Oui.
Donc, Charleston, Arthur Gibbs, 1923. Est-ce que ça vous a donné envie de danser, Christiane?
Oh, ben bien sûr, on adorait cela.
Alors nous étions en 1923, mais en 1924...
Mais on l'a dansé longtemps. Hein,
on l'a dansé longtemps et on le danse toujours.
Ne me faites pas croire que... Effectivement.
En 1924, on a la chance d'avoir un nouveau standard, très connu également, qui est interprété par Louis Armstrong, qui s'appelle... Everybody Loves My Baby.
Ça, on le connaît par cœur.
Absolument. Et donc, Armstrong à la trompette. Et il est avec le Clarence Williams Blue 5. Thank you.
but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. He's got those Elgin movements, 20 years guaranteed. There's no need for improvement, my sweet daddy's built for speed. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
Chers auditeurs, nous poursuivrons le mois prochain notre flânerie à travers les années 20, l'âge du jazz. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Patrick Durand, merci Gilles Secasse.
Nobody but me. Nobody but me.